Chers auditeurs, comme il est de tradition depuis septembre dernier, avec Benjamin de Disbach, pour la première partie du Libre Journal des Artisans, nous avons l'honneur d'accueillir des artisans au savoir-faire varié. Ils sont passionnés par leur métier, connaissent sur le bout des doigts les gestes, les techniques qui leur sont propres et, imprégnés de l'exemple et l'histoire de leurs prédécesseurs, apportent patiemment leur pierre à l'édifice de leur artisanat. Ayant l'honneur de les recevoir mois après mois pour vous les faire découvrir, nous comprenons ensemble, chers auditeurs, que leur ancrage dans l'histoire et le pays réel, loin d'être une arrière-garde et un combat perdu, est, en fait, comme le disait Jean Raspail des auditeurs de Radio Courtoisie, l'avant-garde d'une nouvelle modernité enracinée. Cette série est issue d'une collaboration entre Radio Courtoisie et le magazine L'Incorrect. Je suis Benoît Aguelon, artisan tailleur de costumes à Neuilly-sur-Seine et ai l'honneur de présenter ce Libre Journal des Artisans avec Benjamin de Disbach, photographe et journaliste. Et ce soir, parmi nos invités, nous avons voulu mettre en lumière le travail de Benjamin de Disbach, photographe et journaliste. Parce qu'il sut ces derniers mois avec brio mettre en valeur ses invités. Il est temps aujourd'hui de lui rendre l'appareil. Ainsi, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir des artisans de l'image, dont Benjamin de Disbach en premier lieu, que nous ferons parler de son métier, son parcours, sa vision de l'image et de tant d'autres sujets relatifs à sa passion pour la photographie. La machine à Vili fait perdre aux artisans l'intelligence du geste et la maîtrise des éléments naturels. Nous le voyons tous les jours dans l'ensemble des métiers. L'émergence de la génération spontanée de photos par l'intelligence artificielle, l'utilisation quotidienne de nos téléphones soi-disant intelligents pour réaliser des photos de notre quotidien, banalise l'objet photographie. Pourtant, quelle aventure que ce métier ! Apparu au XIXe siècle, elle contribue dès sa création à nous connecter à l'histoire. Que ce soit celle qui nous est personnelle, pour par exemple les lieux, les provinces, les villes et villages et familles dont nous sommes issus, que pour la grande histoire. J'ai personnellement toujours été très marqué par les premières photographies des derniers combattants du Premier Empire, ou les poses officielles de souverains tels Napoléon III ou la reine Victoria. La photographie donne comparativement à l'écrit ou la parole une plus grande immédiateté et une clarté plus vivante. Elle saisit la réalité d'un instant et sa vérité. L'éclair du regard fugace d'un portrait, le moment d'un paysage, le mouvement fugace aussi d'un objet qui est fixé dans l'éternité. Le photographe n'est pas l'artisan d'un sujet, il est avant tout l'artisan d'une matière évanescente, mais à l'origine de toute vie, qui est la lumière. Bonjour Benjamin de Disbach.
Eh bien, bonsoir Benoît et bonsoir à tous nos auditeurs.
Comment êtes-vous devenu photographe ?
Voilà, vaste question. Je dirais que je suis devenu parce que ma mère avait été photographe. Elle avait été stagiaire à la fin des années 50, début des années 60, dans une agence qui s'appelait l'agence Dalmas, et qui avait été fondée en 1955 par le journaliste Louis Dalmas, et qui a disparu en 1965. Et ma mère était donc stagiaire à l'époque, donc elle faisait un peu tous les boulots que la plupart des photographes de l'agence confirmés ne voulaient pas faire, c'est-à-dire faire la planque pendant des heures devant chez les people.
Le paparazzi.
Une sorte de paparazzi. Ouais. Et donc, elle était stagiaire, mais elle était stagiaire avec un autre stagiaire, qui était un garçon qui venait de la campagne, qui était issu d'une famille d'agriculteurs de Beaune. Et ce garçon, qui venait de la campagne et qui n'avait donc rien pour être photographe, s'appelait Raymond Depardon, qui est devenu l'un des plus grands photographes français vivants. Donc ma mère n'a pas eu la même carrière. Elle a perdu assez rapidement son enthousiasme pour cette pratique dans cet environnement-là, qui était un environnement très masculin, oui, assez rude. Et par ailleurs, elle voulait une grande famille. Ouais, elle voulait une grande famille, donc ce qui n'était pas évidemment conciliable avec la vie de grand reporter photographique. Et bon, elle a eu ses enfants, elle a eu sa grande famille, et elle est devenue, après, elle a fait une carrière dans la mode et elle a très bien réussi, comme quoi elle avait de multiples talents.
D'accord, alors j'ai fait un petit peu de recherche, donc oui, dans une grande maison de stylisme en fait, qui était à l'origine
dans
les années 60.
Ouais, qui s'appelait Promostyle, voilà, et qui était une agence de stylisme qui avait été créée en fait pour conseiller les industriels du textile.
Oui, qui était en pleine transformation déjà à l'époque.
Qui était en pleine transformation, puisqu'ils étaient en fait dans le prêt-à-porter en fait. On découvrait le prêt-à-porter.
Il y a un très bon article quand on fait des recherches effectivement sur votre maman.
Ah bon,
de Libération 1996.
Ah, d'accord, très bien, vous avez bien bossé. Donc elle a eu donc une autre carrière, mais elle a jamais abandonné en fait sa passion pour la photo. Et je me souviens petit, c'est un souvenir vraiment fort que j'ai, dans l'appartement qu'on avait, il y avait une petite pièce qui était son labo photo, c'est-à-dire elle développait des photos en fait. Mm-hmm. Et je me souviens très bien de cette pièce qui était plongée dans l'obscurité avec cette lumière rouge, et où je voyais enfant apparaître dans le bac de révélateur sur une page blanche une image.
Oui.
Et pour moi, c'était c'est une des images les plus fortes que j'ai. Enfant, il y avait un aspect totalement magique. En
fait. Une personne très complète, en fait. C'était parti dans le stylisme, après la photographie, donc sachant que développement du prêt-à-porter, la photographie était un élément fondamental pour,
oui,
la promotion du stylisme,
ouais, ouais,
et du prêt-à-porter.
Tout à fait.
Donc,
elle a toujours eu donc ce goût pour l'image. Et par exemple, autre souvenir que j'ai, c'est les projections de diapos.
Et le partager.
Et tout à fait, donc tout le monde se réunissait dans une pièce, on projetait les images, et je me souviens tout à fait de ces projections avec le bruit du projecteur, le passage des images, et le fait que donc j'ai été habitué quand même dès petit à voir en grand des belles images en fait.
Oui, on a tous à l'idée effectivement ces projections de diapo après les vacances. Il y a un goût de Madeleine de Proust en fait, on le sent.
Oui, et puis oui, tout à fait. Oui, sans doute, c'est aussi un moyen de retrouver en pratiquant la photo, en essayant de retrouver cette époque-là. Mais c'est le fait que sans le savoir, en fait, j'ai été éduqué, mon œil a été éduqué en fait à ces images-là. Et j'étais d'ailleurs toujours un peu étonné par la médiocrité des images ou des souvenirs chez les autres. Quand on montrait des albums de famille dans d'autres familles,
oui,
et que tout d'un coup, je me disais, mais que se passe-t-il, quoi ? Ces images ne sont pas belles, c'est très étrange, puisque pour moi, c'était naturel que les images soient belles.
C'était fait par une professionnelle, et effectivement, comparativement,
oui,
vous avez eu exigence.
Voilà, mais moi, j'avais pas
l'exigence de perfection.
De moi, j'avais l'impression que c'était tout à fait naturel. Et d'ailleurs, à ce propos, parce que je réfléchissais à ça quand vous m'avez fait cette proposition de venir ce soir, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de refaire des photos techniquement médiocres. Parce que la machine, oui, si vous voulez, est tellement sophistiquée aujourd'hui depuis le passage au numérique,
oui,
qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus rater de photos comme on le faisait autrefois.
Tout ça juste tout seul.
À tel point qu'aujourd'hui, même les photos ratées d'autrefois sont devenues presque l'objet de collectionneurs qui recherchent ces images ratées techniquement, parce qu'on ne peut plus les produire aujourd'hui par le biais de
oui,
l'appareil numérique.
Mais ça me fait penser, parce qu'ayant des filles adolescentes, elles partent en voyage d'études, elles n'ont pas droit à leur téléphone, et donc on leur achète un appareil jetable.
Ouais.
Et donc on retrouve au développement des photos qui sont, soit elles ont fait 15 photos d'un avion, soit des photos sous-exposées.
Exactement.
Et finalement, ça a un certain charme.
Exactement, ça a du charme. L'erreur a du charme, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a tout un développement du marché de l'argentique, c'est-à-dire des pellicules,
oui,
souvent d'ailleurs prisées par les jeunes, parce que on retrouve cette non seulement cette matière et l'objet hein, qui est la pellicule, mais aussi toutes les erreurs possibles, toutes les erreurs créatives qu'on faisait autrefois. Et j'ai ce souvenir dans les années, au début des années 90, j'étais à la Défense sur le Parvis et je vais dans une de ces boutiques. Je ne sais pas si vous vous en rappelez peut-être parce que vous êtes assez vieux pour ça, mon cher Benoît.
Oui, merci. Merci, cher Benjamin.
Des machines où on développait des films, enfin des magasins où on développait des films en une heure. Oui. Il y avait ces grandes machines blanches, ils mettaient d'un côté vos pellicules et puis ça ressortait de l'autre côté.
Oui, alors... bah, c'était la même philosophie que appareil jetable, photo jetable.
Voilà, c'était un peu cette idée-là.
Et je me souviens. Merci la marque bien connue quoi.
Et faisant la queue dans une de ces donc de magasins, derrière un monsieur qui devait être un des cadres de la Défense, et il ouvre sa pochette et toutes ses photos étaient ratées.
Non, c'était un artiste.
Il y avait une sorte de film marronasse sur toutes les images, une sorte de brume, on n'y voyait rien, on décelait à peine des formes. Mais en fait, c'était extrêmement poétique et j'espère qu'il les a gardées parce qu'aujourd'hui, ce type de photo est impossible à obtenir. C'est-à-dire la machine vous empêche et vous fait des images techniquement propres et contrôlées.
Oui, il n'y a plus de gestes, et notamment, ce qui qualifie geste, c'est sa perfection, mais d'abord et avant tout son erreur.
Oui, exactement.
Et quel fut le déclencheur, justement, pour votre passion pour l'image, outre la vision de la maman, en fait?
Écoutez, même en ayant eu, justement, une mère photographe, c'est pas du tout quelque chose qui m'attirait étant plus jeune. D'abord parce que je me destinais... moi, je trouvais le métier de photographe un peu misérable, vous voyez, un peu modeste, par rapport au destin.
Mais nous sommes pas paradis, et puis de repartir comme stylisme,
oui, et puis au
la
destin,
mode parisienne.
Au destin que je m'imaginais, c'est-à-dire énorme, étant plus jeune, ça me paraissait très modeste de se retrouver avec un appareil photo autour du cou. Bon, faire des photos, je trouvais pas ça terrible. Moi, je m'imaginais plutôt en chanteur de rock, vous voyez, acclamé par des foules en délire. Oui. Et donc, l'idée d'être photographe me semblait être quelque chose de tout à fait médiocre. Je me souviens d'ailleurs d'avoir dit à une de mes sœurs, Caroline, ma sœur aînée, que si j'étais pas connu à 19 ans dans la musique, j'arrêterais immédiatement cette carrière de star de rock.
Vous avez peut-être évité effectivement la malédiction des chanteurs de rock de mourir à 27 ans. C'est peut-être
sans doute
pour nous.
Sans doute parce que ma carrière de rockstar a pris fin très très rapidement. Avant, je dirais même avant même d'avoir vu le jour. Donc voilà. Donc, en prenant de l'âge, évidemment, on devient un peu moins jobard.
Non, mais de toute façon, vous avez gardé un look qui est proche d'une rockstar, malgré votre âge. Je vous renvoie à la politesse. Et puis, goûts musicaux qui sont très sympas et qui sont très appréciés par les auditeurs de Radio Courtoisie.
J'espère, on va voir. À 24 ans, je suis sorti de mon service militaire et j'ai commencé à travailler dans cette agence, justement, de stylisme dans laquelle mes parents avaient travaillé. Et j'en ai profité, ça a été une chance pour moi parce que ça a été mon université en fait visuelle en fait. Et ça a été une chance parce que j'ai pu vraiment me nourrir. Ils avaient une bibliothèque qui était extrêmement fournie.
Bibliothèque de textile, de...
Non, photo, ça aussi, oui. Mais aussi beaucoup en photographie, en peinture. Moi, j'avais toujours aimé la peinture. Mes parents m'y avaient emmené quand j'étais petit. J'ai d'ailleurs, en repensant à ça, j'ai ce tableau qui est un tableau préféré du musée d'Orsay, qui est celui qu'on appelle le coin de table, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été peint par Fantin-Latour, et qui est en fait un hommage à Baudelaire, et on voit autour d'une table, assis et debout, un groupe de poètes qui sont la jeune garde de la poésie de l'époque, et on y voit Rimbaud à côté de Verlaine, il y a Camille Peloton aussi. Et c'est un tableau qui m'a toujours frappé, aussi parce que j'adore cette époque, l'époque du Second Empire et de la Troisième République. Mmh. Je pense que notre pays était un pays énorme à ce moment-là. Donc c'est vrai que la peinture m'a toujours plu. Et donc je suis passé de la peinture aussi à la photographie. C'est à ce moment-là que je découvre vraiment le travail de bon nombre de photographes, et notamment des photographes des années 30. Moi, c'est ça a été aussi ma grande passion, cette période-là. Et dans les années 30, y a Kertész, notamment André Kertész, un photographe hongrois. Il y a beaucoup de photographes qui viennent de Hongrie.
De Hongrie, oui.
Qui sont venus à Paris, parce que Paris était à l'époque le centre.
Oui, puis l'Empire austro-hongrois était parti, et les âges d'or étaient finis.
Oui, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils venaient tous à Paris quand même.
Oui, c'est une capitale culturelle.
Voilà, c'est ça.
C'était l'avant-garde.
Était là, les Espagnols avec Picasso depuis le début du siècle, mais même dans les années 20, il y a beaucoup. Et puis alors, les écrivains, Hemingway, etc. Donc c'est vraiment un centre culturel. Paris a été formidable pour ça. Et donc André Kertész est venu à Paris.
Mais on le voit dans ce que vous venez de dire dans les dernières minutes, c'est qu'effectivement... la période qui vous intéresse et votre intérêt pour la photographie, en fait, se chevauche avec un art pictural, avec la peinture, où la photographie et la peinture coexistaient.
Oui, tout à fait. Oui, à une période, exactement.
Une période, on va dire, de 50 ans.
De 50 ans,
1800, on va dire, 1850, 1900, on va dire même 1920, 70 ans presque.
Oui, tout à fait. C'est surtout après-guerre après Seconde Guerre mondiale, que la photographie, que la peinture disparaît, enfin la grande peinture française
tout à fait
disparaître.
Et comme on a vu à une précédente émission, je sais plus, ça devait être en octobre, avec la sculptrice, où effectivement c'était la perte d'un marché privé au profit d'un commande publique, où finalement en fait l'art est devenu un art d'élite.
Ouais. Non mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a eu un dialogue... parfois conflictuel entre la peinture et la photographie, notamment Baudelaire détestait la photographie, alors qu'il y a des portraits de lui de Nadar absolument extraordinaires. Et on peut même remercier la photographie d'avoir des portraits de Baudelaire qui permettent de le voir comme si on pouvait le toucher, quoi, comme s'il était devant nous, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de grands écrivains d'avant, je veux dire. On n'a pas de Jean-Jacques Rousseau, on n'a pas...
La photographie, en fait, a accompagné le formidable développement économique de la France, son industrialisation, ses innovations. Ouais. Effectivement, on a Nadar, effectivement, qui a photographié les premiers avions, Clément Ader. On a des éléments historiques qui sont à la fois immédiats et fixés pour l'éternité, ce qu'on disait auparavant.
Mais si vous voulez... Les amateurs de peinture, bon, c'est ce qui était le cas de Baudelaire, qui était un passionné de peinture, il faut lire ses écrits, notamment sur la peinture, qui sont passionnants, détestaient la photographie parce qu'ils y ont vu tout de suite une menace.
Une concurrence.
Oui, une concurrence et puis une menace qui allait détruire la peinture. Et plus on avançait dans le temps... notamment Picasso aussi, a eu toute une réflexion autour de l'image en disant que puisque maintenant la représentation du réel
était parfaite
dans la photographie, la peinture devait se dégager complètement de cette représentation.
Devait être point figurative.
Exactement. Et donc d'aller vers l'abstraction.
Il y a un véritable dialogue entre deux techniques, une technique ancestrale et une technique beaucoup plus nouvelle.
Voilà. Et à cette époque-là, la photographie aussi... si vous voulez, se ressemble un peu, enfin, un peu les mêmes contraintes que la peinture, c'est-à-dire que, ou en tous les cas de la peinture d'atelier, on ne parle pas là des impressionnistes, c'est-à-dire que comme techniquement, c'est un processus qui est très lourd, avec des appareils qui sont très lourds, c'est des plaques, c'est vraiment un phénomène technologique
complexe. Pour parler comme un épicier, c'est une barrière à l'entrée de la part des gens qui vont acquérir du matériel de photographie plutôt que d'une simple palette de couleurs.
C'est ça, mais c'est aussi un problème de mobilité. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous rendre partout, vous pouvez pas saisir la vie, c'est compliqué. Donc en fait, vous posez. Et même les premières photographies, il y avait un système, vous savez, pour vous...
Un temps de pause.
Oui, parce que les temps de pause étaient très grands. Donc vous aviez des systèmes pour fixer la nuque, pour que le modèle ne bouge pas surtout.
D'accord.
Et donc, d'une certaine manière, le modèle était un peu comme dans la peinture. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il devait vraiment prendre la pose, ne pas bouger. Il y avait un côté, il y avait une sorte de fixité quoi, qui ressemblait un peu, dans les deux cas... à la peinture. Et le développement, et ça je vous en parlerai après la pause musicale.
Voilà, que vous annoncez.
C'est ça que j'annonce. Je vous parlerai des modifications technologiques et des progrès technologiques dans la photographie qui ont permis aussi une séparation avec la peinture et puis une identité propre de la photographie.
Merci.
Ne choisis pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la, la la la. En URSS l'hiver, les pays de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la, la la. Fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre. La viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola Cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose. On s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland. Le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'international. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La 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 la, la la. Tout le temps, car à l'école au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La la la.
Merci. Benjamin, vous avez juste avant cette pause musicale évoqué la technique. Mmh. On va dire la première génération d'appareils nécessitait beaucoup de matériel, était relativement lourd.
Ils étaient en bois, ils étaient sur trépied.
Voilà, il fallait des appareils en plus du nitrate, c'est ça, du nitrate
d'amiante. Ouais, c'était un système de plaques qu'on devait faire, de plaques en verre qu'on devait faire passer. Enfin, c'était effroyable. Hein. C'était vraiment très complexe. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, certains jeunes photographes se remettent à cette technique qui est extrêmement complexe, extrêmement lourde.
Un petit peu archéo-futuriste,
exactement.
Presque.
Ouais, exactement. Donc, mais c'est drôle, en pleine époque du numérique, que des gens se remettent.
C'est ça. C'est finalement, c'est une arrière-garde, ça devient une avant-garde, comme on disait tout à l'heure.
Exactement.
Donc, et quelle a été la première évolution technique? Parce qu'effectivement, on le voit. Alors, notamment dans la relation de Laguerre, c'était très statique.
Exactement. Donc, la grande cassure, c'est les Allemands et c'est l'invention du Leica. Hein, parce que le Leica, en fait, est un petit appareil.
Oui, portable.
24-36, portable. vraiment très léger.
24-36, c'est quoi ? C'est millimètres,
ouais,
centimètres.
C'est ça, ouais, ouais.
D'accord.
Et oui, parce que 24 cm, ça ferait un peu grand, mais c'est plutôt millimètres. C'est le négatif qu'on a connu après, c'est les rouleaux de négatif qu'on a connu après. Et donc ça a vraiment libéré le photographe, si vous voulez. Il a pu être beaucoup plus mobile.
Oui.
Et qui dit beaucoup plus mobile, dit que tout d'un coup, il a pu photographier le mouvement aussi.
Oui,
Et donc avoir une photographie beaucoup moins figée, c'est ce qu'on disait donc avant la pause, c'est-à-dire des attitudes qui soient beaucoup moins emprunt à celles figées, emprunt à celles de la peinture,
oui,
mais véritablement être capable de saisir le geste, le mouvement.
La sincérité, ce qu'on ne voit pas en fait.
Exactement, et la vie d'une manière générale, et d'arrêter le mouvement. Et cette facilité, cette légèreté, cette mobilité va donner naissance à toute une génération de jeunes photoreporters qui vont couvrir les conflits, les années 30, et que l'on n'avait pas du tout avant, et notamment pendant la guerre de 14-18. Il existe très peu d'images en 14-18 de photographies, par exemple d'assaut, il n'y en a quasiment pas. Il peut y avoir des photos de soldats ou dans des tranchées.
Qui attendent l'assaut.
Parce qu'encore à l'époque, on n'avait pas inventé ces petits appareils.
Cette saisie de l'instant, en fait.
Exactement, qui vont révolutionner réellement l'emploi et la prise de vue. Et donc,
juste avant, sur les personnes qui ont révolutionné cette prise de vue, je suis une association d'idées. Lorsqu'on commence à saisir l'instant, dans ces cas-là, on saisit une idée, on saisit une expression, et par là même, en fait, ces précurseurs, ces personnes qui seront vos modèles, donc je vais vous poser la question, qui sont vos modèles, peuvent définir une esthétique.
Ah ouais,
pour être modèle, il faut définir une esthétique. Et donc, ma question suivante, déroulant le fil, c'est quels furent vos modèles qui vous ont incité à être photographe.
En fait, si vous voulez, moi j'étais enfant passionné d'histoire, comme un certain nombre de...
L'auditeur de Radio Courtoisie.
Voilà, sans aucun doute, d'auditeur de Radio Courtoisie. J'étais très passionné par l'histoire du XXe siècle, parce que c'était la plus facile à comprendre, et peut-être celle qui était...
La plus proche.
La plus proche aussi. Et donc, en regardant comme ça des ouvrages sur le XXe siècle, je tombais sur des images, et il y avait un photographe que j'ai relevé très rapidement, c'est Robert Capa.
Ah, vous n'étiez pas encore né d'ailleurs.
J'étais quoi ?
Vous n'étiez pas encore né à l'époque.
Ouais, pas encore. Donc Robert Capa, donc, qui a été un des plus grands photographes reporters de guerre, et qui était hongrois, juif hongrois. Robert Capa n'était pas son véritable nom, il a un nom mais impossible à souvenir. Hongrois, voilà. Et donc, il est parti de Hongrie, donc, comme beaucoup de jeunes hongrois de cette époque-là, juifs d'ailleurs, pour aller vivre à l'ouest.
Après la chute de l'Empire austro-hongrois.
Alors d'abord, certains en Allemagne, à Berlin, puis qui était aussi une des grandes capitales des années 20, et puis après, surtout à Paris. Donc, il arrive avec son frère au début des années 30, je crois, dans des conditions assez difficiles, hein, parce que vivre de la photographie à l'époque, c'était très compliqué.
Oui, il n'y avait pas vraiment de marché de la photographie.
Pas vraiment. La presse magazine commençait à se développer. La presse populaire magazine. Et puis, il va être envoyé en Espagne de la guerre.
À partir de 1936.
À partir de 1936. Et là, il va véritablement devenir le photographe de la guerre d'Espagne. Il travaillera pour un magazine, enfin en grande partie pour un magazine photographique de gauche qui s'appelait Vue à l'époque.
Oui.
Et il va faire tous ses reportages, non seulement sur le Front populaire, mais essentiellement aussi sur la guerre d'Espagne. Et là, son brio, son courage les possibilités technologiques dont on parlait avec le Leica lui permet de faire des images saisissantes de combat où il est quasiment au sein d'une section de miliciens, de
volontaires internationaux ou de
brigadistes internationaux. Et il y a cette, évidemment, très célèbre image de la guerre d'Espagne qui est ce combattant républicain qui est fauché
Oui,
par une balle,
oui.
Au moment d'un assaut, et qui devient évidemment l'image,
l'icône,
vraiment, l'icône de la guerre d'Espagne, puisque c'est le moment de la mort, quoi, qui
oui,
saisit.
C'est ça.
Et donc, il devient vraiment le photographe de cette guerre. Il va aussi, c'est un grand photographe parce que il avait une véritable sympathie pour non seulement pour les combattants républicains,
oui.
Mais aussi, je dirais, une empathie pour pas simplement les combattants, mais il a compris que la guerre, c'était pas simplement les combattants, c'était aussi les réfugiés,
oui.
C'était aussi les enfants, c'était aussi les femmes.
Oui, c'était tout un environnement qui était bouleversé. La guerre d'Espagne était
exactement.
Un génocide, était une guerre civile absolument sanglante partout.
Et il comprend et il saisit des moments de vie aussi extraordinaires. On voit ces combattants avec leurs femmes sur des, je me souviens, sur des chaises longues prenant le soleil à Madrid. Enfin, il y a aussi une forme d'humour. Il était vraiment formidable. Il avait toute une gamme, une palette extraordinaire d'émotions qui passaient par ces images. Et c'était un photographe extraordinaire. Donc, il est connu pour ça. Après, il va faire tous les conflits. Hein. Il va faire.
Oui. Seconde guerre mondiale.
Avant ça même, il fait la guerre en Chine. Hein.
La guerre en Chine, qui était particulièrement meurtrière violente.
Terrible. Il a fait aussi des images très fortes. Il va faire. Alors, il ne fera pas la défaite de la France. Il sera aux États-Unis à ce moment-là.
Oui.
Mais après, il s'intègre complètement à l'armée américaine et il devient quasiment citoyen américain.
Oui.
Il va faire la campagne d'Afrique du Nord.
D'accord.
La campagne d'Italie.
Il y a une tradition quand même du côté des Américains, comme du côté en fait des bolcheviks aussi, de communiquer effectivement sur
sans
l'iconographie
ouais.
autour de la chose. On
ouais.
discutait en
plus
ligne
que
effectivement
Français,
que oui que ouais. qu'il y avait les premiers photographes de guerre
ouais.
où là effectivement c'était statique comme on le disait, c'était la guerre de sécession. Et après, la guerre de 1870,
ouais,
mais
ouais.
il n'y a pas de photographie des combats de Bazeilles.
Mmh, mmh. Alors, du côté soviétique, oui, ils ont eu aussi...
Du côté soviétique, après, oui.
Ouais, ils ont eu des très grands photographes pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Ça, c'est pour une question, je dirais, de propagande idéologique.
Voilà.
Chez les Américains, je pense que c'est une question de marché et du marché de la presse.
Hein, si vous voulez. Ah oui, pour pouvoir vendre des images.
Et des magazines, parce que les magazines, bon, on sait que c'est une société qui était plus avancée dans la société de consommation, des médias, etc. Et donc, déjà à l'époque, avec un marché, je ne sais plus, ils sont 150 millions à l'époque ou 200
oui.
millions, bon, bah, c'est colossal, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec.
Tout le monde lisait la presse.
Voilà, ça n'a rien à voir avec la France. Et puis, tout le monde la lisait parce qu'il n'y avait pas de télévision. Il y avait la radio, et puis après, la presse magazine. Sinon, le reste, ça... Et si on voyait les actualités au cinéma, mais à part ça, il n'y avait aucun moyen de connaître ce qui se passait. Donc, les gens étaient au courant des grands événements de la guerre. Mais après, ils voulaient les voir aussi en images. Et d'où, si vous voulez, le pouvoir qu'avait, extraordinaire qu'avaient les photographes à cette époque-là, et y compris donc, Robert Capa. Donc, la deuxième, pour revenir à lui, la deuxième grande image de lui, c'est le soldat américain rampant dans l'eau le 6 juin 1944. Bon,
C'était il y a 80 ans.
C'était il y a 80 ans, on va le fêter
semaine.
Exactement, dans quelques jours, donc les 80 ans. Robert Capa donc, est incorporé à une unité de la première division américaine, hein, celle qu'on appelait la Big Red One.
Oui.
Et donc arrive ce 6 juin, au matin, à Omaha Beach. Je crois qu'il est 7h ou quelque chose comme ça.
Oui.
Bon, on imagine qu'ils ont peu dormi.
Ils
ont été malades. En plus, ils sont restés plusieurs jours parce que ça a été reporté.
Oui.
Donc, ils sont restés au moins
4 ou 6
jours,
je crois. Oui.
Ouais, 3 jours sur les bateaux. Bon, on imagine dans quel état ils devaient être, hein, en sachant surtout qu'ils allaient être reçus comme ils imaginaient reçus par les Allemands. Donc, sûrement dans une grande nervosité. Ils arrivent vers. Ils montent dans les bateaux.
6 heures,
7 heures.
Heures.
Il fait mauvais. Terriblement
temps de chien.
Un temps de chien.
Ils ont maintenu le débarquement en 6 juin pour éviter d'avoir plus tard les tempêtes.
Donc la lumière est blafarde. Enfin bon, c'est terrible, c'est lugubre. Hein. Il faut être tout à fait honnête avec ça. Et donc d'un point de vue photographique, ça pose un problème. qui n'a pas beaucoup de lumière. Parce que, bon, là, on va
rentrer dans la technique.
Point, voilà, allez, un petit point technique. En photographie, il y a trois règles. C'est d'une part, avec lequel on joue, c'est d'une part l'ISO de la pellicule.
Donc l'ISO.
La sensibilité de la pellicule, et qui, à l'époque, n'était pas très grande. Hein. Après, on a fait des pellicules qui pouvaient monter jusqu'à 6000 ASA. Donc, mais bon, à l'époque, on avait des pellicules qui avaient besoin de beaucoup de lumière, en fait.
Hein. D'accord. L'ISO, c'est plus c'est bas, plus on a besoin de lumière.
Exactement. Quand vous êtes à 100 ISO, vous avez besoin de beaucoup de lumière. Quand vous êtes à 6000, vous en avez besoin de moins.
Vous êtes dans le noir.
Voilà. Donc, pas tout à fait dans le noir, mais enfin, vous avez une pellicule beaucoup plus sensible, mais où il y a beaucoup plus de grains aussi. Bon, donc, à l'époque, ils avaient donc des pellicules qui n'étaient pas très sensibles, donc ils avaient besoin de beaucoup de lumière. Mmh. Après, vous avez un autre point qui est l'obturation.
Oui.
L'obturation, c'est une sorte de diaphragme, en fait, qui s'ouvre et qui se rétracte pour laisser passer la lumière.
D'accord.
Plus vous avez besoin de lumière, plus vous ouvrez le diaphragme. Et moins vous avez de profondeur de champ. Hein, donc,
d'accord, donc on peut voir les objets plus proches, mais pas les objets plus lointains.
Voilà, c'est ça. Enfin, vous ne les voyez pas net, hein, en fait.
Bah, c'est
vous
pas
voyez
net.
Au premier plan, là où vous faites la mise au point, et puis derrière, de moins en moins. Et puis après, il y a la vitesse d'obturation, c'est-à-dire c'est le volet qui se lève et qui s'abaisse. Hein, pour prendre des photos, exactement.
D'accord.
Plus vous ralentissez, vous exposez donc plus longtemps la pellicule, puisque vous avez besoin de plus de lumière, donc vous avez besoin que ce temps où la lumière rentre soit plus important, vous avez plus de chances d'être flou.
Oui, c'est exactement comme au début de la photo.
Exactement. C'est ce que vous...
Comme au début des photos, il ne fallait pas bouger.
Il ne fallait pas bouger, pourquoi ? Parce que le temps d'observation était très long.
D'accord.
Donc là, il est dans une scène où tout le monde court de tous les côtés et où la lumière est très basse. Hein, sur, d'autant qu'on est, il est 7h du matin et que le ciel est complètement bouché.
Donc, oui.
Donc il a dû prendre ses photos avec un temps d'obturation très lent, d'où un flou sur ses images.
D'accord.
Et il raconte en plus que ce débarquement sur Omaha Beach, ça a été absolument terrible.
Bah, c'est un des pires.
Voilà, c'est un des pires, mais en plus, lui, qui était vétéran quand même de plusieurs guerres, dit qu'il était absolument mort de trouille.
Mmh.
Ça a été, ils étaient couchés, vautrés, essayant de se cacher derrière les chevaux de frise. Enfin bon, ça a été terrible. On connaît toutes ces scènes.
Oui, enfin, ce Ryan, voilà.
Le jour le plus long.
Qui pour les plus jeunes, Medal of Honor pour les jeux vidéo.
Voilà, donc ça a été vraiment terrifiant. Il prend ses photos, il fait une centaine de photos et il envoie le plus rapidement possible ses pellicules.
Et alors, il est dans la première vague et il se débrouille pour avoir pour une envoyer... barge qui renvoie les photos directement à Londres.
Voilà.
Il ne sait pas ce qu'il a pris comme photo.
Il sait à peu près, parce qu'il se rappelle quand même des photos qu'il a prises, mais il renvoie le plus rapidement possible ses pellicules. Pour qu'elle soit développée, parce qu'il y avait une censure d'abord des Anglais, après il fallait envoyer les films, puisqu'ils travaillaient pour Life, hein, qui était le grand magazine américain, et pour que les photos soient développées le plus rapidement possible, avant le 10 juin, qui était la date de bouclage. Bon, donc quand ces films sont arrivés à Londres, vous imaginez bien dans l'état de nervosité dans lequel devaient se trouver toutes les rédactions. Hein. Et donc, pour faire développer ces films, le laborantin, qui devait être très nerveux, les films, vous les développez, après, vous les rincez à l'eau, et après, il faut les faire sécher.
Bon,
et donc, les grandes rédactions avaient toujours des pièces dans lesquelles ils suspendaient les films, hein, comme du linge, qui étaient chauffantes. Bon. Et visiblement, le laborantin a mis la chaleur beaucoup trop importante.
D'accord,
et les films ont fondu.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des films qui avaient été faits par Capa, hein, dans les conditions au risque de sa vie, ont fondu en quelques minutes. Et donc, n'est resté que 4 ou 5 photos. Et miracle, chose absolument incroyable, la photo iconique du débarquement.
Du soldat rampant. C'est pas soldat Ryan, c'est soldat rampant.
A été sauvé. Donc voilà, c'est pour la petite histoire, mais c'est vrai que dans la photographie, parfois, il y a des histoires comme ça incroyables derrière les photos. Et je pense que c'est
cette photo, en fait, est comme une œuvre d'art. En fait, elle a reçu un nom, c'est ça.
Oui, elle s'appelle Face in the Surf. Et donc, elle est floue, mais elle, justement, ce flou exprime toute la violence de la scène, toute la confusion, tout le chaos qui existait, et l'instantanéité. Et on voit ce type qui rampe entre les chevaux de frise, et on voit que d'ailleurs c'est cadré deux en diagonale. Enfin, on voit que c'est le chaos absolu. Et puis
Robert Capa a quand même une vie très 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 remplie. Je crois qu'après, il a continué effectivement à travailler pour des grandes agences.
Il a continué à jouer pour des grandes agences. Et puis, il est mort en Indochine.
Oui. En 1954, c'est ça ?
Il est mort en 1954, quelques jours après Dien Bien Phu. Il n'était pas à Dien Bien Phu.
Donc, il a 70 ans, voilà, ce mois-ci.
Exactement. Il suivait une colonne. On connaît sa dernière image. Et c'est une photo en noir et blanc. Il suivait une colonne dans une rizière derrière un char, et il a voulu monter sur une butte qu'on voit sur son image pour pouvoir prendre une photo en contre-plongée. Et en montant sur cette butte, eh bien, il a sauté sur une mine, et il est mort instantanément. Voilà. Donc Robert Capa, c'est un personnage de légende qui a été l'objet ces dernières années de critiques et de procès, à mon avis, totalement ridicules. Notamment, on lui a reproché d'avoir mis en scène
soldat républicain.
La mort du soldat républicain. Là, j'ai vu dernièrement un Américain l'accuser de ne pas avoir fait les photos du 6 juin. Enfin bon, c'est toutes ces théories complotistes et délirantes autour de légendes.
Bon, si ça se trouve, le 6 juin n'a peut-être pas eu lieu, en fait.
Hein. C'est ça, sans doute.
Donc,
sans doute, ils n'ont même pas existé.
Voilà.
Et les Allemands n'ont pas existé non plus.
Mais vous vous passionnez pour le XXe siècle. Vous l'avez dit depuis le Second Empire. Du Second Empire et le XXe siècle. Le XXe siècle était particulièrement émaillé de guerres. Vous citez en premier modèle Robert Capa. Ouais. Vous aimez bien la guerre. Vous aimez bien surtout les photographes de guerre, je crois.
Ah, au départ, oui. Bon, après, je me suis intéressé à autre chose, mais comme on parlait un peu de mes débuts, de mes premières inspirations, c'est vrai que j'ai toujours aimé chez eux. D'abord, il y a une forme de virilité chez ces artistes. Il y a une dimension tragique aussi que je trouve intéressante. Voilà. Donc, parce que.
De saisie de l'instant, parce que justement, pour pas rebondir sur la question de la mise en scène, c'est pas une mise en scène, c'est une saisie de l'instant.
Oui, de saisie de l'instant, et puis aussi, encore une fois, hein, de gens qui ont risqué leur peau et qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent de souffrance, de mort, etc. Si vous voulez, c'est pas des œuvres de l'imaginaire de quelqu'un qui est assis derrière son bureau.
Ils étaient en première ligne, et puis il y avait pas un gros gilet pare-balles marqué presse dessus, quoi.
Ouais, exactement. Et eux-mêmes ont souffert en plus. Hein. Là, je pourrais vous parler aussi d'un autre photographe américain,
oui,
Douglas Duncan, et qui avait été colonel des Marines pendant la guerre du Pacifique, et qui est devenu après-guerre photographe de guerre, et qui a été le grand photographe, lui, de la guerre de Corée.
Alors ça, c'est formidable, parce que justement, c'est quelque chose, pour resituer pour nos auditeurs, la guerre de Corée, c'est 1950 à 1953, avec un partage des deux Corées suite à l'occupation japonaise pendant près de 50 ans.
Exactement.
Et c'était une première guerre sous égide des Nations Unies pour les gentils, donc de la Corée du Sud, et puis sous l'égide des communistes pour les méchants.
Voilà, c'est ça. Les communistes ont juste envahi la Corée du Sud pour la...
Jusqu'à un petit réduit au sud de Busan.
Exactement.
Et après, il y a eu la réoffensive
américaine de MacArthur.
De l'ONU, d'ailleurs, parce qu'il y avait bataillon français de Corée.
Il y avait un bataillon français,
donc,
tout à fait.
Voilà, fait...
Mais bon, Duncan, lui, il a fait essentiellement les Américains.
Oui.
Et il y a cette photographie très célèbre d'un soldat américain qui, lors de la retraite... parce que les Américains étaient allés jusqu'à la frontière chinoise,
oui,
qui était le Yalu, exactement. Et à ce moment-là, ça a provoqué les Chinois communistes.
Voilà, enfin, volontaires avec beaucoup de gros guillemets.
Exactement, qui ont déferlé sur les Américains. Et donc, ils ont dû reculer en plein hiver, hein, où il faisait extrêmement froid. Il peut faire moins 40, moins 50 en Corée. Et donc, il y a cette image de ce visage qui va apparaître en première, d'ailleurs, en couverture du magazine Life, qui est ce soldat américain dont le visage est mordu par le froid et qui va devenir vraiment iconique de la souffrance donc, de ces soldats américains pendant la guerre de Corée.
Oui. Voilà,
et l'ensemble des photos de Duncan vont être réunies dans un livre qui est un peu un livre de chevet pour moi, qui s'appelle This is War,
Ceci
est la guerre, et qui compile justement toutes ces plus grandes photographies de la guerre de Corée.
De Duncan, alors je fais un lien pour répondre à une question d'auditeur, si vous avez un lien avec Guillain de Disbach, effectivement, Benjamin de Disbach, oui. Et c'est une famille de tradition immémoriale militaire.
Oui, c'est ça, de guerriers.
Qui notamment, dont l'honneur et fidélité, qui est la devise de la famille, a inspiré la Légion étrangère.
Qui a été empruntée par la
Légion étrangère. Et qui se présente, la Légion étrangère se présente comme les héritiers des régiments suisses.
Exactement.
Donc on voit le lien, en fait, avec votre appétence sur les photographes de guerre, et je voudrais revenir sur Duncan, parce que Duncan était colonel chez les Marines auparavant, et il était en première ligne.
Ouais.
En première ligne. Et je crois que vous avez une anecdote sur quelques jours de Noël, sur ce que, discutant avec un de ses soldats.
Ouais, c'est ça, il lui dit, si j'étais Dieu, que voudrais-tu pour Noël? Et le soldat répond, offre-moi de vivre demain. Donc ça dit quand même l'état d'esprit, la violence extrême de cette guerre, la souffrance des soldats qui se sont battus, et notamment effectivement de soldats français dans ce bataillon français de l'ONU, d'une guerre qui a été absolument épouvantable, et notamment de guerre qui a été une guerre de tranchées, de boucheries, notamment les Chinois qui déferlait sur les lignes françaises et américaines.
Méthode soviétique.
Et qui se faisait complètement massacrer.
Ouais,
exactement, par les Américains et les Français. Donc voilà. Et puis alors le dernier, donc...
Le troisième.
Le troisième photographe, c'est un photographe anglais qui s'appelle Don McCullin et qui lui est un photographe des années 60, 70, 80, qui est un magnifique photographe qui a fait la guerre du Vietnam, la guerre du Biafra.
Donc on est sur d'autres, on est sur des guerres de différentes intensités, il y a trois générations.
Exactement, c'est dans la même tradition, mais c'est un photographe qui a exercé son métier plus tard, quoi. À l'époque où Capa était bien sûr déjà mort et Duncan n'était plus photographe de guerre. Vraiment.
Qu'est-ce qui vous inspire? Parce que j'imagine qu'il deux manières de faire, la photographie, il y a un troisième maintenant.
C'est un photographe qui est très noir, qui est très... qui a une vision très romantique, romantique noire, mais vraiment poussée.
Désabusé,
à tel point que Cartier-Bresson l'appelait, lui disait que sa photographie était très semblable à la peinture de Goya. Donc c'est pour vous donner un peu l'ambiance de ses photos.
Oui, joyeux, tout ça. Enfin,
ouais, voilà. Tout ce qu'on aime. Avec une grande élégance. Et c'est un photographe tout à fait exceptionnel qu'il faut découvrir si vous ne le connaissez pas.
Don McCullin.
Voilà, Don McCullin. Et puis je parlerai d'un quatrième, lui, qui était français, qui était un ami de McCullin, qui s'appelait Gilles Caron. Malheureusement mort, lui, dans les années 70, au début des années 70, au Cambodge. Il est mort à 30 ans. Mmh. Qui était un merveilleux photographe, un ancien parachutiste. Et qui...
Dans des zones de guerre, faut en avoir un peu quand même, et puis avoir de l'expérience.
Voilà, donc lui, il a fait aussi la guerre du Biafra, un certain nombre de conflits, mais il a fait aussi des formidables photos de mai 68 et qui sont très intéressantes parce que, comme beaucoup de gens, je pense que mai 68 est un bascule, c'est-à-dire qu'on a basculé vraiment dans autre chose, la France d'avant et puis la France d'aujourd'hui.
Société de divertissement, de laisser-aller, de plaisir.
Et à l'époque, Ce qui est amusant de voir, c'est qu'il y a une photo en particulier qui est absolument incroyable. C'est un CRS qui donne un grand coup de matraque à une manifestante qui est couchée par terre et qui se protège avec ses bras. Et celle-ci est habillée enfin avec un, si vous voulez, en jupe, avec un petit sac à main, un tailleur jupe. Enfin, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les émeutiers de l'époque sont en
Oui,
costard cravate.
tout à fait, oui. C'était des petits bourgeois, donc.
Oui, c'était des petits bourgeois,
puis,
mais les petits bourgeois
puis pardon
d'aujourd'hui.
pour les Marie Chantal, mais effectivement, c'était des petites Marie Chantal avec coque Claudine.
Voilà, c'est ça. Mais le petit bourgeois d'aujourd'hui, bah, il est plus, il n'est pas du tout en costume cravate, quoi. Hein. Donc,
Bah, aujourd'hui, il a pris le code des belles blocs, donc.
Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, je propose qu'on fasse un petit intermède là, un
Oui.
autre, un deuxième
Continuez,
intermède
petit intermède bien
avec
sympathique.
des chanteurs québécois, voilà, les Cowboys Fringants. À tout de suite.
Aujourd'hui, j'ai signé au revoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Je quitte mon trou à rats pour une coupe de 100 piastres. Qu'est-ce qu'un gars ferait pas pour Peter voir la face?
Oh mon prince charmant, t'as jamais travaillé. Puis tes pires fenêtres que la terre a engendré. Si c'est vrai que tu t'en je m'installe sur le rivage pour te voir, mon gros bras, t'éloigner vers le large.
T'es méchante quand t'es saoule, pis comme t'es toujours saoule, ben t'es tout le temps méchante, c'est comme des portes tournantes. Alors oui, j'ai signé pour plus t'avoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande.
Chaque soir dans notre vie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors nous reprenons cette émission. Benjamin Disbach, comment vous êtes-vous orienté vers la photographie de studio et particulièrement, nous avons parlé de vos modèles en tant que photographe de guerre, tant que photographe de studio, quelles ont été les figures particulières?
Alors moi, j'ai pas fait effectivement.
Vous n'avez pas fait de guerre, service militaire.
Pas fait de guerre. Donc je me suis même pas lancé dans la photographie de guerre. Je me suis plus lancé dans la photographie de studio. Ça, j'ai compris qu'en fait, on pouvait aussi exprimer des idées importantes en studio. J'ai fait des rencontres importantes. Didier de Faïs, qui dirigeait le site photographie.com. m'a beaucoup aidé à mes débuts en prêtant son, notamment il avait un studio photo dans lequel j'ai pu faire un grand nombre d'images.
Photographie.com, c'était à peu près dans
Photographie.com, ça existe toujours, c'est un site exactement qui a été mis en place dans les années 90 et qui a beaucoup aidé la jeune photographie. Après, j'ai travaillé aussi avec un bureau de graphisme qui s'appelle Élément, qui est dirigé par deux graphistes de très grand talent, Gilles Garlet et Jérôme Witz.
Aucun lien avec la revue, on tient à le dire pour les
aucun. Aucun lien avec la revue. C'est un collectif de graphistes qui travaillent beaucoup dans le spectacle et notamment dans les pochettes de disques. Et avec eux, j'ai fait beaucoup de couvertures de disques. Eddie Mitchell, Manu Dibango, Étienne Dao. Et puis, je dirais que l'autre rencontre très importante, c'est évidemment l'Incorrect, oui. Pour qui je travaille depuis maintenant 7 ans, et qui m'a fait totalement confiance, qui est un magazine mensuel, donc qui a été créé par Jacques de Guilbon, Arthur de Vatrigrand, et puis Romaric Sangars aussi, et puis en directeur artistique, Nicolas Pinet, qui m'a fait toute confiance, avec qui je travaille depuis 7 ans. Ce magazine, donc, c'est un magazine qui est autant écrit que papier.
Oui, tout à fait, qui est visuel.
Voilà, qui est très visuel. Et donc on
grâce
porte
à vous
une... Grâce à moi, et puis grâce à Nicolas Pinet aussi, et puis à tous ceux qui y travaillent, hein, donc à toutes les plumes, Marco Brégon, le romancier, Romaric Sangars, Juliette Briance, qui officie aussi.
Qui est bien connu ici, sur nos ondes.
Exactement. Donc, on est plusieurs. Et puis, c'est effectivement dans ce magazine que je fais aussi des portraits, de la photographie d'objets, et puis du reportage.
Oui, il y a une patte, parce que vous m'avez fait l'honneur, effectivement, de faire mon portrait.
Exactement.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Voilà.
Et donc, il y a une vraie patte, il y a une marque Benjamin Disbach, en quelque sorte.
Merci. Et puis, donc, ne manquez pas le dernier numéro, hein, qui est sur une rencontre et un débat entre Michel Houellebecq, le grand rabbin de France, et l'abbé Vivarès, voilà, qui est absolument excellent. Et un reportage aussi sur le pèlerinage de Chartres.
Très bien.
Voilà, qui m'a bien cassé les jambes. Donc,
Déjà les jambes cassées le mois précédent avec la réserve citoyenne de la 13e DBLE, où vous étiez en immersion.
Exactement. Donc, en fait, moi, mon domaine de
domaine, oui, quelle discipline.
Il est dans le reportage, donc dans les portraits, et puis les objets. Et depuis, effectivement, 7 ans, je m'oriente progressivement vers aussi la photographie industrielle.
Vous êtes un artisan qui travaillait, on va dire, à l'ancienne, qui travaillait sur le geste, sur le modelage de la lumière, et au service de l'industrie.
Oui, tout à fait. Parce que moi, d'abord, je suis un passionné, comme je vous le disais, des années 30 et de la photographie des années 30. Et la place de l'industrie...
Tout ce qui était Bauhaus et tout ça, l'utilitarisme.
Était exceptionnel. Il y avait, au début du siècle, il y a eu, je crois, dans les années 1910, l'avant-garde donc, parisienne, oui, artistique. Il y avait Picasso et Brancusi qui vont au Bourget. admirait les premiers avions, en quelque sorte.
Les hélices d'avions, c'est ça ?
Les premiers avions qui étaient construits à l'époque, et il s'arrête, subjugué, notamment Brancusi, devant une hélice, et il dit « on n'arrivera jamais à faire plus beau, plus esthétique que ça, nous, les artistes
».
Donc il reconnaît que l'objet industriel a une
beauté intrinsèque au-delà de son utilité.
Exactement, une beauté intrinsèque en tant qu'objet. Et puis après, dans les années 30, les années 20-30, la photographie va être aussi très, très inspirée par le monde de l'industrie. Il y aura beaucoup de reportages. Je pense notamment aux photos de François Collard, qui a fait ce livre qui s'appelle « La France travaille », qui est un reportage sur divers lieux de l'industrie. Et donc textile, sidérurgie, etc. Et on voit que le monde de l'industrie vraiment fascine les gens de l'époque. On a notamment au cinéma avec Jean Gabin, qui est le grand héros ouvrier de l'époque.
Oui, il y a la figure de l'ouvrier qui reprend une certaine noblesse.
Oui, tout à fait. Une noblesse, un courage, une force qui est liée à l'industrie, qui est vue comme un vecteur de progrès.
C'est ça, c'est plus une manœuvre qui sert de variable d'ajustement.
Exactement. Et donc, ce prestige va perdurer après la Deuxième Guerre mondiale avec la reconstruction de la France, le prestige du Parti communiste aussi.
Oui.
Et je dirais que cet intérêt pour l'industrie va exister jusqu'à la fin des années 60. Et
il y a 68 encore.
Voilà, et il y a sans doute, et il y a un exemple que je trouve très frappant, c'est les affiches électorales des élections de 1966.
Ah oui, dites-nous.
Et notamment celle de François Mitterrand qu'on voit qui était candidat de la gauche contre Charles de Gaulle.
Oui, 65.
Voilà, et il pose devant, enfin c'est un montage, il pose devant un pylône électrique. Qui est planté dans un champ comme ça, et puis je ne sais plus, je crois que le slogan c'est un candidat jeune pour une France moderne ou quelque chose comme ça.
Le progrès, l'expansion, comme on dit dans la soupe aux choux.
Exactement. Et si on les compare au même François Mitterrand avec ses affiches en 1980 qui va être La Force tranquille, où on le voit devant le clocher d'un village, coup de génie d'ailleurs de ces gars-là, qui comprend que l'industrie ne fait plus du tout rêver les gens. Qui sont dans une société de plaisir, effectivement, d'hédonisme, et puis où les contraintes et les menaces environnementales montent. Et donc, il n'est plus du tout question de montrer l'industrie qui commence à développer une image négative de pollution,
de castration. Et qui commence à se désindustrialiser, justement. C'est la France qui commence à tomber.
Et le candidat qui pose devant une usine... C'est Giscard à l'époque, qui va perdre donc les élections en 80.
Voilà.
Donc depuis
avec les jeunes avec Giscard.
Voilà. Et depuis lors, si vous voulez, l'industrie, à mon avis, manière d'ailleurs un peu incroyable, mais a perdu complètement cette image positive, y avoir une image très négative.
Oui.
Et aujourd'hui, je pense qu'il y a véritablement pour l'industrie l'opportunité de montrer ce qu'elle est. C'est-à-dire une force de construction, un pouvoir, des pièces usinées magnifiques, une fois qu'on sait les photographier, et surtout de répondre à ce problème qui est la désindustrialisation aussi du pays. Donc je sens qu'aujourd'hui, il y a un basculement. On revient sur cette veine, je dirais, de l'industrie.
Pour mes questions suivantes, c'est premièrement, et vous allez voir tout de suite le lien, j'invite les auditeurs à se connecter sur votre site internet pour bien comprendre ce qu'on dit tout de suite, ce qu'on est en train d'expliquer, parce que par l'image, malheureusement la radio, mais peut-être que le mois prochain, les semaines prochaines, on va pouvoir montrer des choses.
Ouais.
Mais donc votre site internet, c'est
benjamindediesbach@attaché.com.
Donc Diesbach, D-I-E-S-B-A-C-H.
Alors, et donc,
photographie.
Exactement, donc là vous verrez mon travail. Et je dirais encore, moi, par rapport à ces pièces industrielles, je suis comme Brancusi et Picasso.
Ah,
je suis émerveillé, face à la création de ces pièces qui ont une beauté intrinsèque, une esthétique particulière et de force. Et il faut absolument les mettre en avant parce que malheureusement, les industriels, on leur a bourré le mou depuis 30 ans. et ils ont tendance à cacher ces pièces qu'ils font. Elles sont souvent très mal photographiées sur leur, oui. sur leur site, alors que moi je prône vraiment une stratégie de produit dans la communication, c'est-à-dire montrer vos produits parce que ce sont vos cartes de visite.
Ce sont vos cartes de visite, mais en fait, il y a aussi une explication qui montre que, étant donné qu'on est totalement désindustrialisé aujourd'hui, que les seules rares industries qui restent en France doivent se distinguer par une stratégie produit, comme vous le dites. Et donc, à partir de ça, c'est devenu des pièces de luxe. Et effectivement, sur votre site internet, Benjamin de Disbach Photographie, vous montrez clairement que la photographie d'un joint de tuyau.
Non, c'est pas un joint de tuyau.
C'est des joints de canalisation
très technologiques. Non, oui. C'est des joints technologiques qui sont utilisés dans l'industrie de la défense.
Voilà. Donc c'est des produits que vous mettez vraiment en avant, stratégie
Exactement.
Produit.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui, au niveau d'industrie du luxe, ce sont l'industrie du luxe
Exactement.
J'utilise exactement.
Je photographie les pièces industrielles comme des bijoux. Voilà. Donc, écoutez, merci Benoît en tous les cas. Et puis,
merci Benjamin. Je sais pas qui interviewer l'autre.
Allez, on envoie la musique.
Une ombre passait sur le mur, au pied duquel tu m'attendais. La main posée sur les blessures que n'importe qui t'avait fait. La veille, quand je t'avais quitté, tu étais parti pour te mettre la mine dans des plans insensés que je préfère ne pas connaître. Je t'ai porté jusqu'à chez nous, heureusement maman n'a rien vu. J'ai désinfecté ton genou et je t'ai mis au lit. J'ai veillé sur toi tout le jour. J'ai dit à maman qu'il fallait te laisser dormir, tu géniais. Et c'était comme un chant d'amour. Mais comment vais-je faire pour te faire passer le goût du feu? Mais comment vais-je faire pour te ramener vers le bleu? Le lendemain, tu m'as promis que tu ne recommencerais jamais. Comme deux jours plus tôt, j'ai souri et j'ai dit que je te croyais. Et le soir venu, je t'ai vu ronger ton frein, je te sentais brûlant d'aller dire à la rue les quelques mots qu'elle attendait. Mais comment vais-je faire pour te faire passer le goût du feu? Mais comment vais-je faire pour te ramener vers le bleu? Pour te ramener vers les îles d'enfance et d'arches suspendues, vers nous deux glissant tout gracile sur nos vies comme sur un talus. Quand nos pensées ne faisaient qu'une, le sommeil était l'ennemi. Nous ne connaissions pas la nuit. Nous n'avions jamais vu la lune. Je vais te chercher ce matin, comme tant de matins à venir. Je suis sûr que tu n'es pas loin et que tu m'attends pour me dire commencera jamais et que tu vas me laisser faire. Je te soulèverai de terre et jusqu'à chez nous te porterai. Mais comment vais-je faire pour te faire passer le goût du feu? Mais comment vais-je faire pour te ramener vers le bleu? Mais comment vais-je faire pour faire passer le goût du feu? Mais comment vais-je faire pour te ramener vers le bleu?
Nous avons le plaisir aujourd'hui, après Benjamin de Disbach, d'accueillir M. Yann Avril, qui est directeur artistique et gérant d'une agence de création artistique culinaire, donc qui est l'agence Créa YA, que vous pouvez retrouver sur Internet, donc agence comme une agence, créa comme la créa, YA.com. Yann Avril, qu'est-ce qu'une agence de création artistique culinaire ?
Bonjour Benoît.
Bonjour Yann.
Bonjour. Une agence de création artistique culinaire, c'est une agence qui va permettre à tous les artisans, à tous les acteurs du monde culinaire d'être sublimés, d'être montrés et d'attirer de nouveaux clients. Et,
donc la nourriture et la boisson.
La nourriture, la boisson, les arts de la table, de manière plus globale, et les professions en soi qui interviennent.
D'accord. Alors, on est très heureux et très honorés de vous inviter, de vous avoir invité ce soir, parce que vous complétez particulièrement le propos qu'on a eu précédemment avec Benjamin de Disbach. C'est que la manière dont vous prenez à photo, la manière dont vous sublimez effectivement un certain art de vivre à la française est différent, totalement différent de la manière dont Benjamin envisage de travaille la photo, travaille la lumière pour sublimer des pièces industrielles, parce que vous avez finalement des pièces qui sont uniques.
C'est exact, surtout nous avons des clients, des partenaires uniques. Si on prend simplement le champagne, chaque maison de champagne a son histoire, plus ou moins ancrée dans le passé. Chaque maison a sa philosophie. Parlons des vins, parlons de tout ce qui sert la gastronomie. Et pour chaque maison, parce que je n'aime pas parler de société, de clients, pour chaque maison, nous avons une approche différente, en nous adaptant bien sûr aux spécificités.
Vous avez des spécificités. On parlait un petit peu plus en termes de photographie. Là, j'ai sollicité aussi Benjamin. On a deux professionnels de la lumière, de l'image. Quelles sont vos différences entre un produit technique industriel et une matière comme la nourriture, comme une côte de bœuf?
Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nourriture, en fait, elle réfléchit pas du tout la lumière de la même façon. Et encore, vous le disiez tout à l'heure, vous faites aussi des bouteilles, donc c'est encore une autre manière des contraintes physiques et techniques qui sont encore différentes. Donc bien souvent, lorsqu'on fait du culinaire, on est, enfin en tant que photographe, c'est vraiment une spécialisation quoi.
Particulière. Ouais, particulière. Quelles sont les contraintes, Yann Avril ?
Je pense que ce sont surtout des contraintes intellectuelles. Des contraintes de vision, des contraintes esthétiques pour ne pas se répéter. Par exemple, les chefs cuisiniers changent de carte souvent, toutes les saisons. Une même maison de champagne peut avoir différentes cuvées. Un même produit peut, à différents terroirs, prenons l'exemple tout simplement des maisons avec lesquelles j'ai travaillé, un vermouth. Donc nous sommes sur des notes beaucoup plus méditerranéennes, beaucoup plus fruitées. On s'est orienté vers une culture visuelle beaucoup plus romaine, méditerranéenne.
C'est l'environnement, parce qu'une bouteille, c'est une bouteille.
C'est ça. Étant donné que ce vermouth est très floral, donc on s'est orienté vers les fleuristes. Nous avons développé toute une mise en scène florale, donc appel à de nouveaux artisans, parce que les fleurs, ce sont les odeurs. Et c'est ça qui est formidable avec la gastronomie, c'est que la gastronomie fait appel à tous les sens. Oui. Le cuisinier, donc bien sûr à l'odorat, mais à l'ouïe. Quand on entend des cuisiniers travailler, quand on entend tout simplement le plat qui se prépare, le toucher lorsque l'on est en contact avec les produits. Et je suis convaincu que ce sont ces cinq sens qu'il faut traduire par une image, une photographie. Lorsque j'ai travaillé avec des bouchers, je me suis beaucoup plus orienté vers un traitement un peu plus brutal, beaucoup plus masculin, en m'orientant vers la peinture classique hollandaise.
D'accord, une nature morte.
C'est exact. Une certaine opulence dans la mise en scène. Et je compare deux acteurs de la gastronomie et un autre producteur de champagne. et dans la reconstitution historique des Templiers. Donc nous avons développé une esthétique visuelle beaucoup plus chevaleresque.
D'accord, on est un petit peu dans... Je vous pose une question un petit peu woke, on est un petit peu dans le masculinisme un peu quand même, non?
Dans les belles choses de la vie.
Voilà, très bien. Et donc en fait, vous avez une signature qui est l'affirmation de ce qu'on fait, de ce dont fait la promotion sur Radio Courtoisie, du beau et du vrai. Mais est-ce que c'est pas un peu rendre trop beau les produits? Enfin, je pense par exemple McDo ou tout au moins des chaînes de hamburgers qui font au niveau du culinaire, qui font des hamburgers qui n'ont rien à voir avec la réalité.
C'est justement la différence, ce qui nous oppose, nous, dans notre agence et avec tous les professionnels avec lesquels j'interagis. Nous voulons défendre le savoir-faire de tous les acteurs de la gastronomie au service de l'art de vivre à la française. Et nous apportons notre savoir-faire à nous, c'est-à-dire moi, qui suis artiste de base.
Oui.
Chacune des photographies sont dessinées en amont, à la main, ou en numérique pour être envoyées plus rapidement. Nous évoluons avec les technologies, mais voilà, toutes les photographies sont dessinées et en fonction des besoins, en fonction des budgets, nous nous contentons tout simplement d'un photographe et d'une mise en scène, ou alors nous allons vers des scénographes, des menuisiers, des artisans, des fleuristes pour des compositions florales si c'est nécessaire, etc. etc. Donc c'est vraiment utiliser le savoir-faire pour le savoir-faire du client au nom de l'art de vivre.
C'est presque un savoir-faire de réalisateur par rapport à juste photographe culinaire.
C'est ça. C'est ça.
Vous proposez en fait votre produit, c'est du début à la fin.
Disons que chaque maison a son histoire.
Oui.
Ce que je veux, c'est traduire l'histoire de cette maison à leur public cible, qui peut ne pas être touché de la même manière que si la photo était simplement faite avec un téléphone ou de manière beaucoup plus vulgaire, on va dire.
D'accord. Oui, c'est de la mise en scène, en fait. Hein.
C'est exact. Là,
vous disiez que vous travaillez dans le cinéma aussi. Donc,
oui.
D'une certaine manière, c'est un peu du storyboard, quoi.
C'est exact. Mm. Lorsqu'on dit que donc le cinéma, c'est la vérité 25 fois par seconde, nous avons toute une histoire en 1/25 de seconde. Mmh. Une photo, une histoire.
En fait, vous avez des métiers complémentaires. Benjamin de Disbach et Yann Avril. Vous avez une mise en musique. Vous contribuez, Benjamin, aussi à cette mise en musique sur une approche qui est industrielle, mais sur une approche de la cible industrielle. Et Yann, plus vers...
Je suis beaucoup moins dans la mise en scène, quoi.
Oui.
Beaucoup moins, je m'attache plus, encore une fois, au produit.
Oui.
Et de la manière dont...
Oui, vous avez besoin d'expliquer ce que c'est que produit, en fait.
Oui, non, mais moi, je fais des photos très simples, en fait. Hein. En fait, qui sont axées essentiellement sur le produit, quoi. Donc, après, en fait, tout le travail, il est sur la lumière.
Oui.
Qui est dans le produit, en fait, hein. Enfin, qui va illuminer le produit et qui ne doit pas évidemment l'illuminer de manière égale partout, parce que ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est de la photographie de base qu'on trouve sur les sites internet. Ou...
Oui.
Mais justement, de choisir comment est photographié l'objet à certains endroits,
la mise en situation,
etc., fait que... Mais moi, c'est essentiellement, je veux dire, un travail de lumière sur l'objet, quoi. Bon, ça m'arrive d'en faire un petit peu quand même, mais je fais pas de mise en scène vraiment, j'irais, sophistiquée. Ça, c'est encore un autre... je pense que c'est un autre travail, mais c'est un travail qui est un travail d'équipe, d'abord.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il est aussi passionnant. C'est vrai que parfois travailler en équipe c'est intéressant, je le vois même à l'incorrect en travaillant avec Nicolas Pinet
le directeur artistique.
C'est vrai que le métier de photographe c'est un métier qui est quand même très solitaire et bon on l'a choisi aussi pour ça, hein, si on n'a pas le goût de la solitude, faut pas faire photographe, mais c'est intéressant et même stimulant intellectuellement de travailler en équipe et de réaliser la vision, en tous les cas, de participer à une discussion, enfin, une création là-dessus. Moi, je trouve ça tout à fait passionnant. Hein,
on l'a vu, Benjamin Disbach, vous êtes photographe, mais aussi, en quelque sorte, un petit peu directeur artistique. justement par cette mise en scène sur l'industrie.
Oui, mais c'est toujours, enfin d'abord c'est toujours ma vision que je développe.
C'est votre vision.
Et je pense que ça peut être intéressant, vraiment franchement, de travailler en équipe de temps à autre. Ça permet ça permet une bouffée d'oxygène et puis c'est agréable pour tout le monde. Non, moi j'aime bien travailler en équipe. Hein, je trouve ça intéressant, même d'aller. Je vous donne un exemple. D'aller faire un reportage. Dernièrement, on est allé faire des photos de Jordan Bardella. On y est allé à plusieurs. C'était intéressant d'être guidé.
Oui.
Par le directeur artistique, on me dit, est-ce que tu as fait ça, etc. Parce que c'est vrai que forcément, on n'y pense pas tout le temps. On est un peu enfermé en soi. Mmh. Et de travailler avec quelqu'un qui vous dirige. Moi, je trouve ça, à partir du moment où c'est évidemment pas, c'est pas le Troisième Reich. Hein, ça peut être tout à fait stimulant et intéressant. Et c'est vrai que les images qu'on voit là actuellement sur cette agence sont intéressantes parce que cette agence culinaire.
Oui. Donc agence créa, YK.
Ça donne effectivement une image, toute une ambiance et une atmosphère. Voilà.
Oui.
Et ça c'est assez passionnant. Voilà, c'est comme un peu ces grands films péplum, hollywoodiens.
Oui.
Voilà, il y a énormément de moyens. Je trouve que c'est aussi intéressant. C'est passionnant d'y participer.
Mais ce qui est intéressant, Yann Avril, quels sont les métiers où tout au moins, vous travaillez effectivement avec des photographes. Qui intervient parce que vous agissez en fait, comme on l'a dit, en fait, vous êtes aussi réalisateur. Avec plein de projets et vous intervenez avec beaucoup d'une multitude de métiers. Donc là, qui intervient? Quels sont les acteurs avec qui vous intervenez? Avec qui vous travaillez sur la direction artistique?
Benoît, merci. C'est une très bonne remarque. Justement, quels sont les métiers? Quel est le métier? Aujourd'hui, on se perd beaucoup dans les noms de professions. Beaucoup de professions sont inventées. Et représente tout simplement une coquille vide et surtout une ligne de dépense pour les clients.
Et surtout des noms anglais d'ailleurs.
Surtout des professions qui ne veulent rien dire. Je suis avant tout un conteur, un narrateur. C'est ma profession en tant que réalisateur, en tant que directeur artistique. Et je fais intervenir en fonction encore une fois des budgets, des possibilités, un maximum donc de professionnels dans leur domaine. Donc
oui.
Le photographe culinaire pour la prise de photos. Je vais voir des amis bottiers pour les chutes de cuir, lorsqu'on a besoin de traduire des textures beaucoup plus ambrées, des textures de cuir. Comment traduire, par exemple, qu'un whisky est tourbé?
Alors, vous voyez, comment vous avez fait?
Des chutes de cuir, du bois, donc menuisier. Ça, c'est lorsque les budgets sont...
Vous créez une bouteille, vous faites une illusion de liquide?
Non, pas du tout. On place...
Derrière la bouteille,
autour de la bouteille, dans la mise en scène, nous reconstituons, ça c'est l'une de mes signatures, de présenter dans la mise en scène les éléments qui traduisent les goûts et les odeurs du produit. Et souvent en essayant de répéter les goûts et les ingrédients. Un autre enjeu apparaît lorsque nous photographions une bouteille en automne ou hiver. C'est lorsque les produits ne sont pas de la saison. Mmh. Comment trouver des fleurs, comment trouver des fraises lorsqu'on est hors saison?
Oui.
C'est très simple, il y a des artisans qui construisent des factices de pâtisserie, de fruits, des fleurs.
Vous avez des accessoiristes en quelque sorte.
Accessoiristes pour être plus,
d'accord, plus simple. Donc finalement, en fait, sur quel projet... On va partir un petit peu sur ce que vous avez fait, ce que vous allez faire, mm-hmm. ce que vous voulez faire.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous fait vous envoler? Quels sont les projets un peu emblématiques de la chose?
Pour rester dans le contexte donc de l'agence culinaire, c'est bien sûr mon objectif, c'est de développer l'image à un niveau professionnel avec notre sensibilité de l'artisanat français. Des acteurs français dans la globalité, beaucoup trop d'artisans mettent de côté leur image, que ce soit les couteliers, que ce soit toutes les professions, beaucoup mettent ça de côté. Ce n'est pas leur métier, c'est notre métier et je peux le comprendre. Donc mon objectif avant tout, c'est bien sûr de développer parce que des pays qui ont un savoir-faire beaucoup plus jeune, beaucoup moins présent, rattrapent sur le marché la France, tout simplement grâce à leur com'.
Oui, on perd des parts de marché sur le secteur sur lequel on est bon.
Et on a trop d'assurance sur nos produits, tandis que d'autres pays vont mettre en avant l'étiquette de la bouteille de vin, vont être beaucoup plus attractifs rien qu'avec une étiquette. Et en France, on pense, on se contente de notre image, mais on risque d'être un jour ou l'autre dépassé.
Encore une fois dépassé. Encore une fois dépassé sur ce qui fait notre force. Je rappelle que vous avez l'agence crea.com.
Oui.
Donc.
Non, moi je voulais savoir dans quel domaine, par exemple, vous dites on risque d'être dépassé, si vous avez des exemples concrets.
Dépassé, alors pour ne pas citer de personnes concrètement, il faudrait faire une étude de marché, faire des comparaisons, mais je remarque que les bouteilles des vins espagnols sont beaucoup plus attractives en tant que bouteilles que les vins français qui se contentent d'un classicisme que je respecte, que j'aime beaucoup, mais malheureusement. De ce que j'ai pu remarquer, l'étiquette
l'emporte. Une image vieillotte.
C'est ça. Mais beaucoup de jeunes producteurs de vin en ont conscience et font évoluer.
Ils se réveillent.
Et heureusement.
Très bien. Mais écoutez, merci en tous les cas d'être venu déjà.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci Benjamin de t'être laissé interviewer aussi. Donc on se retrouve le 28 juin, dans 4 semaines. Je rappelle nos invités, Benjamin de Disbach, photographe et journaliste, atteignable à Benjamin de Disbach Photographie.
Disbachphotographie.com.
Et Yann Avril de agence crea.com, qui fait de l'agence culinaire. Voilà.
Et donc, nous annonçons aussi la prochaine émission.
Nos camarades,
exactement, Camille Daumier, qui vous parlera ce soir des artisans du bois. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.